Monsieur Daniel Mermet, vous m'avez refait revivre mon enfance. L'école Robillard, le petit marchand de où l'on trouvait tout, le marché de la Basoche, les platanes, tout, et puis même les écoles. Vous parlez d'école des filles, donc vous avez dû aller à l'école Jean Massé, c'était beaucoup plus loin. Ou alors, oui, ça. Et puis les encriers qu'il fallait remplir. Donc, vous m'avez fait revivre toute mon enfance.
Voilà, salut Daniel. Moi aussi je suis un pays, je suis de Pavillon sous bois et oh t'es un con Mermet, tu me fais chier. Et tes histoires là. Moi je suis né dans les années 50, mais tout ce que tu racontes, oh j'ai bien connu Robillard, tout ça. Canal de l'Ourcq, moi j'étais près du canal de l'Ourcq, mais côté Livrière quand. Oh, mais j'en aurai autant à raconter que toi. On va pas chercher loin, mais finalement, c'est le principal, quoi. Les billes, tout ça. Allez, à bientôt, Daniel. Salut.
Oui, mais attention, oh, mais le canal de l'Ourcq du côté Livry-Gargan, alors là, nous, on n'y allait pas, hein. Au-delà du canal de l'Ourcq, il y avait le pont de Montyon, mais on dépassait pas, oh là là, là, c'était la zone, là, hein, qui était dans la zone. Nous, on était quand même, tu vois, il y avait les prolos, puis les sous-prolos, je crois que t'étais un petit peu du côté des sous-prolos. On parle entre nous, là, parce que hier, j'ai raconté le chemin de l'école de quand j'étais petit, puis voilà, ça fait des souvenirs. Bon, ben, ceux qui n'ont pas compris, tant pis pour eux, hein. C'était entre nous. N'empêche que ça a suscité quelques réactions qu'on va entendre sur le répondeur de la base si j'y suis au 01 56 40 37 37. Aujourd'hui, une heure avec l'équipe du Monde Diplomatique, le mensuel Le Monde Diplomatique, c'est sérieux, c'est passionnant, et ça fait suite à certains reportages que nous vous avons présentés. Mais d'abord les messages.
Marie-Lise M de l'Aquitaine. Je suis rentrée ce soir bercée par tous les souvenirs de Daniel Mermet et j'ai profité vraiment beaucoup de cet entretien sur son école et je tenais à remercier pour cet excellent moment qui m'a un petit peu donné les larmes aux yeux à un certain moment parce que lorsque Daniel a parlé de la blouse que lui avait fabriqué sa mère et que j'ai repensé aux blouses sous lesquelles je n'avais pas de vêtements aussi luxueux alors que d'autres jeunes filles de mon lycée tous ces sentiments là je les ai ressentis très très fort et c'était bien.
Mon cher Daniel, je suis en train de t'écouter là, tu nous parles de ton chemin de l'école et moi ça me rappelle des sacrés souvenirs parce que j'ai peut-être été à l'école avant toi. Et c'était pendant la guerre. Et à l'époque, on nous distribuait des galoches à semelles de bois, à Boucaré, et là-dessus, c'était un espèce de carton bouilli, et quand malheureusement il pleuvait, eh ben, là-dessus, il se faisait la valise. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire, mais salut à toi, et puis continue, t'es bien parti. Salut Daniel.
Bonjour, je m'appelle Michel Dumont. Ce jeudi soir, j'ai écouté Monsieur Mermet sur son chemin de l'école et je le remercie parce que j'ai vécu avec lui les mots et les images. Je suis un ancien gamin de Paris, des Batignolles et du 15e, aujourd'hui en province, mais merveilleux. Merci. Au revoir.
Voilà, je suis Jacqueline de Chambéry. Je viens d'écouter l'émission de Daniel Mermet sur le trajet de l'école aujourd'hui jeudi 6 septembre 2001. Et quand je l'écoutais, j'avais l'impression de me retrouver un petit peu sur mon chemin de l'école. Et c'est bizarre, j'ai même cru qu'il se trouvait dans ma ville pour la simple et bonne raison que chez moi aussi, il y a eu un collaborateur qui, sur sa maison, a eu longtemps une croix gammée parce que ben c'était le sinistre Barbier qui habitait là et qui, mon Dieu, est bien connu, bien sûr. Et puis, quand mon école existe toujours, je l'ai faite en pensée, et c'est vrai que dans mon école, à l'heure actuelle, ça n'est plus une école, c'est le Conservatoire de musique de Chambéry qui y est installé. Et ben, je suis encore pas montée dans les étages, mais l'école n'a pas changé d'un iota. Et ça fait bizarre parce que j'ai l'impression que Daniel, à mon âge, qu'on est à peu près de la même année et que, ben, ma foi, je retrouve tout un tas d'émotions aussi qui, bien sûr, je n'habitais pas une maison, le trajet n'était pas si long, il n'y avait pas tout un tas de choses, mais quand il a parlé du lapin qu'on tuait le dimanche et qu'on lui arrachait l'œil, qu'on récupérait le sang, il me semblait revoir des choses que j'avais vécues moi aussi, gamine, parce que ben, c'était comme ça, ça se faisait comme ça à l'époque. Voilà, merci Daniel, et continuez.
Oui, bonjour, je viens d'écouter votre émission, et je trouvais ça vraiment superbe.
Bonjour, Lynn Melty, Marseille. Je voulais répondre à Daniel Mermet. Je l'écoute raconter son retour sur le chemin de l'école, décrire le monde heureux de l'enfance. Un vrai bonheur que je ne pourrais pas connaître, car, vois-tu, à moins que tu n'interviennes auprès des dirigeants démocrates algériens, il semble improbable que je retrouve le chemin de ma maison, le cerisier, les citronniers, les rosiers. Voilà sans doute un nouveau thème pour ton émission. Au revoir.
Bonjour à toutes les auditrices, tous les auditeurs et à toute l'équipe de Là-bas si j'y suis. Ceci est donc un message de la Confédération Paysanne de l'Ardèche qui organise ce samedi 8 septembre une grande fête avec au programme une quinzaine de stands d'associations, de mouvements ou de syndicats. Un grand débat à partir de 16h sur l'Organisation Mondiale du Commerce et ses conséquences sur le monde paysan, et avec aussi des témoignages sur ce qui a été le dernier sommet du G8 à Gênes. Alors en soirée, il y aura un grand concert avec 4 groupes ardéchois, donc échange et rencontre au programme ce 8 septembre à Gravière. Gravière, c'est à 3 km d'Evance, qui se trouve à 35 km au sud d'Aubenas. À bientôt et bonne continuation à toute l'équipe de Là-bas si j'y suis.
Ben, j'appelle pour remercier de faire des émissions comme celle d'aujourd'hui. Ça a fait du bien à tout le monde. Alors moi, bon, je suis esti, donc le chemin de l'école, ben, il a perdu un peu de sa fraîcheur. Mais je suis papa depuis 3 jours, et puis comme cadeau, ben, j'ai mes parents qui m'ont offert les premiers livres qu'ils m'ont racontés. Je les avais pas vus depuis un peu plus de 25 ans, et ça m'a fait tout drôle, quoi. Donc à chacun ses chemins d'école.
Bonjour toute l'équipe, ici Eric Molitor. Je voulais simplement dire que je viens d'être papa et que c'est pas pour rien, parce que moi j'ai passé des années à dire que je voulais pas d'un enfant dans ce monde pourri et qui sera éternellement pourri, et je voulais simplement, en faisant tous les numéros des gens qui me tenaient à cœur pour leur annoncer la nouvelle, bah, passer aussi par chez vous, parce que souvent votre émission m'a fait vibrer et m'a redonné espoir et m'a revitalisé, et peut-être quelque part vous aussi vous y êtes pas pour rien de cet heureux événement. Voilà. Merci beaucoup.
Salut, c'est Daniel Mermet, Là-bas si j'y suis, avec Le Monde Diplomatique.
Flight number 2, arriving from...
Ah, je pleure abondamment. Je me suis encore pris une grosse dose de lacrymo.
Gênes, qu'en pensez-vous? Gênes, la mondialisation, qu'en pensez-vous? Les anti-mondialisations, qu'en pensez-vous? Les anti-mondialisations qui manifestent lors des sommets et des réunions internationales, qu'en pensez-vous? Eh bien, à 63%, vous les approuvez. Et oui, c'est un sondage, ce FRESS, qui vous a peut-être échappé au cours de l'été, mais qui a été publié le 19 juillet dans l'excellent quotidien du soir, Le Monde. La mondialisation économique est-elle une menace ou une chance? Demandaient les sondeurs. À 55%, vous avez répondu, c'est une menace pour nos emplois. Et à 37%, vous avez répondu, c'est une chance pour nos entreprises. À qui profite la mondialisation? Vous demandait-on, bande de sondés, et vous avez répondu à 55% aux entreprises multinationales, à 47% aux marchés financiers, à 32% aux États-Unis, à 11% à l'Europe, à 7% aux consommateurs en général et à 1% à tout le monde. Ça vous a peut-être échappé, ce sondage qui a été publié au mois de juillet, tout le monde est en vacances. Si ça vous a échappé à vous, ça n'a pas échappé à ceux qui nous gouvernent et ceux qui vont solliciter nos suffrages dans les mois qui viennent. À 76%, les Français que nous sommes pensent que l'économie n'est pas assez régulée. 76%. Eh oui, libre-échange, laissez-faire, course à la thune. La mondialisation n'est pas si heureuse que ça. Qui aujourd'hui, quel défenseur de la mondialisation libérale viendrait voir les salariés de Moulinex, c'est le jour, et leur dire ceci, ce que disait John Rockefeller. Rockefeller, voilà un modèle. Eh bien, Rockefeller disait ceci. Le développement d'une grande entreprise, c'est tout simplement la survie du plus apte. C'est tout simplement l'application de la loi de la nature et de la loi de Dieu. Fin de citation. Allez dire ça aujourd'hui à ceux de Moulinex et demain à ceux qui se feront virer. Alors aujourd'hui, on va parler de Gênes avec l'équipe du Monde de Diplomatique, des suites de Gênes. On va parler de l'Europe, des clandestins africains et d'abord et encore du Proche-Orient. Alors que la violence continue, on découvre qu'en janvier 2001, à Taba, on a frôlé la paix. Jamais on n'en a été aussi près. Ce sera comme une suite au reportage que nous vous avions proposé au mois de juin pour ceux qui tâchent de comprendre avec lucidité, c'est pas facile, avec sérénité, c'est pas facile, la situation là-bas. Jusqu'à 18h, là-bas, si j'y suis avec le Monde Diplomatique.
Tout le monde demande, tout le monde demande, le gouvernement ment énormément.
Tout le monde demande, tout le monde demande, le gouvernement
ment énormément. Le physiquement, le mentalement, le vulgairement,
et le poliment, le béatement, et le tristement, et le sagement,
et l'idiotement,
oui l'idiotement, et le sensément, et logiquement,
et le carrément, la cruellement, et l'abonnement, la que ma maman.
Qui ment rarement.
Tout le monde ment.
Tout le monde ment.
Le gouvernement ment énormément.
Tout le monde ment.
Tout le monde ment.
Le gouvernement
ment énormément. Le sauvagement, le paisiblement, le socialement,
et l'isolement, l'unanimement, et l'appartement, ces deux éléments.
L'illégalement,
l'illégalement, le pénalement, le châtiment,
immédiatement, et le jugement, et l'amendement, et le garnement.
Ment certainement.
Tout le monde demande.
Tout le monde demande.
Le gouvernement
ment énormément.
Tout le monde demande.
Tout le monde demande.
Le gouvernement
ment énormément.
Le docilement, l'affranchissement, le laïquement,
le dévotement, l'éternellement, et le diablement, oui assurément.
Cet enfermement,
c'est l'enfermement, le réellement, la troisièmement,
la deuxièmement, sur l'événement, la premièrement, c'est du boniment.
Continuellement.
Alors on se retrouve avec l'équipe du Monde Diplomatique autour du numéro de ce mois de septembre, avec un papier important en première page sur le Proche-Orient et sur la paix manquée. Il se trouve qu'on a eu récemment accès à des documents datant de janvier 2001 et qui ont été présentés à Taba et qui constituent indéniablement une avancée, ce qui a été une avancée dans le processus de paix qui était interrompu. Est-ce qu'on peut revenir sur cette histoire de Taba?
Alors bon, d'abord que Taba, c'est en janvier 2001, c'est quelques jours avant les élections qui vont amener M. Sharon au pouvoir, et c'est la dernière négociation entre l'OLP, les Palestiniens, et le gouvernement de M. Barak. C'est le résultat déjà de 8 mois de tractations qui ont eu lieu depuis le sommet de Camp David. Et
de juillet 2000.
2000. Et sur les différents dossiers en cause, c'est-à-dire la question des frontières, la question des réfugiés, la question de Jérusalem et la question de sécurité, il y a eu des avancées importantes. Et nous publions dans le Monde Diplomatique, en particulier la proposition israélienne qui n'avait pas été rendue publique, sur la question des réfugiés palestiniens, qui, comme vous le savez, est une des questions les plus épineuses, puisqu'il y a 3,5 millions de réfugiés palestiniens et que leur avenir est évidemment un des facteurs importants de l'évolution du conflit. Et ce document montre pour la première fois une prise en compte par Israël, d'un côté du fait qu'Israël est en partie responsable de l'origine de ce problème, c'est-à-dire qu'en 47, 48, 49, 50, il y a eu une expulsion d'une partie des Palestiniens et qu'Israël est en partie responsable.
C'est la première fois
qu'un document officiel israélien reconnaît une part de responsabilité là. Et deuxièmement, l'idée que la solution du problème des réfugiés palestiniens doit être fondée sur la résolution 242 du Conseil de sécurité et la résolution 194 de l'Assemblée générale, qui est la fameuse résolution qu'on appelle la résolution sur le droit au retour, bien que le terme de droit au retour n'existe pas dans cette résolution, et qui dit que les réfugiés ont le droit de rentrer dans leur foyer. Et on sait aussi que dans les négociations concrètes qui ont eu lieu autour de ce document, il y a eu des avancées sur les solutions concrètes, puisque je crois qu'il n'a jamais été question pour la direction palestinienne de penser à un moment quelconque qui pourrait, entre guillemets, submerger Israël avec 3,5 millions de réfugiés. Mais en même temps, il fallait trouver des solutions concrètes, et le document et les négociations montrent que ces solutions étaient envisageables. Ce que je dis dans cet article, c'est pas qu'à Taban, on a résolu tous les problèmes. C'était d'ailleurs trop tard, on peut y revenir.
Mais c'était une avancée
et qu'en tous les cas, les grandes lignes d'une solution sont possibles. Comme m'a dit un négociateur palestinien, les élections auraient été en mai et nous aurions eu 2 ou 3 semaines de plus pour négocier, nous aurions abouti à un accord.
Alors, c'est cette rencontre de Tabah et ce texte-là arrive alors qu'on est en pleine intifada.
Oui, un des problèmes, et je veux dire une des choses terribles dans ce qui est en train de se passer, c'est que on est passé très près de la paix, je crois, Tabah le montre, mais en même temps qu'il s'est créé une dynamique qui est parallèle à Tabah. C'est-à-dire que quand se tient le sommet de Camp David, en juillet 2000, on est déjà 2 ans après la fin annoncée de l'autonomie, c'est-à-dire que normalement les Palestiniens devraient avoir déjà leur État, que la population palestinienne est exaspérée par la poursuite de la colonisation, par la poursuite des contrôles, par une vie quotidienne qui est impossible, etc., et qu'elle ne croit plus du tout à ce processus. Et donc, elle va se révolter en septembre avec la seconde intifada, sans aucune directive centrale, parce que elle ne croit plus à ce processus. Et ça va être interprété par l'opinion publique israélienne comme une espèce de refus de la paix. Alors, je crois que ce n'est pas du tout ça. C'est simplement l'idée que maintenant, on ne veut plus d'un processus interminable dans lequel chaque avancée nécessite des mois de négociations, etc. On veut simplement l'indépendance sur la Cisjordanie, Gaza, avec Jérusalem-Est comme capitale. Et on le veut tout de suite. Et là, il y a quelque chose de très fort et de très important. Mais malheureusement, ça n'a pas été interprété comme ça. Et l'escalade de la violence entre les deux populations, pas seulement les deux directions, effectivement, aujourd'hui, crée un fossé qui sera difficile à combler.
Mais c'est pas comme ça que les choses sont présentées. On nous présente l'échec de Camp David en juillet comme un refus des Palestiniens et d'Arafat face à des offres généreuses. C'est comme ça que les choses sont présentées, c'est comme ça qu'elles existent dans l'opinion israélienne aujourd'hui. On a tout fait, Arafat refuse, donc il montre son vrai visage, et son vrai visage, c'est de chasser les Juifs d'Israël, et c'est les frontières d'Auschwitz.
Si vous voulez, effectivement, il y a eu un énorme malentendu sur le sommet de Camp David, qui n'est pas d'ailleurs un malentendu. On sait maintenant un peu comment, à la fois, les choses sont passées, mais comment Barak a préparé la campagne médiatique de l'après Camp David. C'est-à-dire que dès la fin du sommet, il va briefer l'ensemble des journalistes israéliens sur son interprétation, sur ce qui s'est passé. Ça va être la seule version reproduite par la presse occidentale. Et donc, pendant des mois, on va croire que effectivement, il y a eu des propositions généreuses israéliennes et que Arafat les a refusées. Or, en fait, aujourd'hui, on sait, y compris du côté américain, quelles étaient les propositions. Alors, propositions généreuses, je veux dire, par rapport à quoi? On peut dire que c'est vrai que par rapport aux offres habituelles du gouvernement israélien, c'était plus généreux. Mais en même temps, par rapport au droit international qui dit que l'ensemble de la Cisjordanie, de Gaza et de Jérusalem-Est sont des territoires occupés, c'était complètement insuffisant. Pour prendre la question la plus simple, qui est la question territoriale, en gros, sur la Cisjordanie, il y avait 10% qui étaient annexés par Israël et 10% loués à long terme. C'est-à-dire que l'État palestinien serait sur 80% du territoire, ce qui n'est pas seulement une question de pourcentage par rapport aux 100% normaux, mais qui rend un État palestinien impossible, non viable et complètement sous contrôle israélien. D'autant que Israël s'arrogeait le contrôle des frontières extérieures, etc. Donc on sait que c'était ça les propositions généreuses, et je dis, il n'y a aucun dirigeant palestinien qui pouvait accepter ces propositions. À supposer même qu'ils aient rejeté une offre qu'on peut penser positive, ça ne change pas le droit des Palestiniens qui est fixé par le droit international. Et que, encore une fois, ce droit international, c'est le droit des Palestiniens à l'ensemble de la Cisjordanie, de Gaza et de Jérusalem.
أيها العالم، أيها المنصفون، إلى ما تنظرون وماذا تنتظرون؟
Dominique Vidal.
Oui, juste pour dire l'importance de la connaissance de tabac et ce que le monde diplomatique a fait en le faisant connaître, en faisant connaître les textes de tabac, c'est double à mon avis. D'abord une importance pour le passé, parce que comme Alain l'a dit, l'existence même des accords ou des quasi-accords, disons, de tabac, prouve que la version israélienne du sommet de Camp David est fausse. Il y avait la possibilité d'un accord, la preuve, on y arrive presque à tabac. Et donc, si c'était possible en janvier 2001, on voit mal pourquoi ça n'a pas été possible en juillet 2000, sinon du fait d'une certaine intransigeance de la délégation israélienne qui voulait à tout prix imposer ses propres positions aux Palestiniens en profitant de la présence américaine. Alors, on pourrait dire, bon, tabac, c'est de l'histoire. Et c'est vrai que d'une certaine façon, c'est de l'histoire, puisque l'élection d'Ariel Sharon et de ce gouvernement a renvoyé tabac à des ténèbres obscures, et sans doute pour un certain temps. Mais en même temps, c'est du présent, et c'est du présent très important. Pourquoi ? Parce que, au beau milieu de cette escalade, où l'on nous dit qu'il n'y a plus de solution, la guerre devient une guerre de religion, c'est une guerre sans fin, il n'y aura pas d'issue, tabac nous rappelle qu'un accord est possible, et est possible sur l'ensemble des questions, y compris les plus difficiles. Et personnellement, je suis absolument convaincu qu'au fur et à mesure où la logique politique reprendra le dessus, tabac reviendra comme un élément central de futures négociations, qu'elles soient bilatérales ou qu'elles soient internationales. J'en veux d'ailleurs pour preuve, par exemple, l'ambassadeur israélien à Paris, qui continue à nous expliquer qu'Arafat est le seul responsable de l'échec de Camp David, de l'intifada, des violences d'aujourd'hui. En gros, Arafat presse les boutons et tout arrive. Ce même ambassadeur est contraint de dire en même temps que tabac restera pour l'avenir un point de référence fondamental.
Quels peuvent être les scénarios, quelle peut être l'évolution de la situation? Est-ce qu'il y a un risque d'embrasement régional, Alain Grèche?
Écoutez, c'est vrai que la situation aujourd'hui a l'air bloquée. Elle est bloquée aussi parce que l'opinion publique israélienne, qui est un élément important pour arriver, aboutir à la paix, est elle-même bloquée. Mais l'opinion publique israélienne est prise entre deux sentiments contradictoires, c'est-à-dire l'impression que Arafat a refusé la paix et que en fait les Palestiniens ne voulaient pas la paix et qu'ils cherchent par des moyens détournés à détruire Israël. C'est vrai qu'il y a cette impression qui est très forte dans l'opinion
et en même temps qui est pas très compréhensible pour un étranger qui arrive en Israël. Israël est une telle puissance régionale et avec des appuis internationaux qui font qu'il y a vraiment aucune crainte de...
Oui, mais ça, il faut remonter à, bon, effectivement, ce qu'est l'histoire juive, au génocide, à une crainte qui a toujours été très forte dans l'opinion, qui est effectivement, vous avez raison, contradictoire, c'est-à-dire c'est la puissance principale, et en même temps, les gens ont peur. Et bon, c'est un facteur politique tout à fait majeur, d'ailleurs, dont je pense que souvent les Palestiniens ou les Arabes n'ont pas conscience. Et c'est vrai qu'un certain nombre de déclarations ou d'articles qu'on peut lire dans la presse des fois arabes, ouvertement antisémites, avivent ces peurs. Mais c'est un facteur politique important. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que pour la plupart des Juifs qui ont décidé d'aller en Israël, ils ont été pour, entre guillemets, chercher un havre de paix. C'est-à-dire un endroit, on dit, pour la sécurité des Juifs. Or, s'il y a un endroit aujourd'hui où ils ne sont pas en sécurité, c'est Israël. Il vaut mieux vivre à New York ou à Paris que de vivre là-bas. Donc c'est cette contradiction qui peut demain déboucher sur une évolution de l'opinion publique israélienne au fur et à mesure que la stratégie de Sharon apparaîtra pour ce qu'elle est, c'est-à-dire incapable de répondre au double objectif qu'il avait fixé, la paix et la sécurité. Il n'y a ni la paix ni la sécurité. Ceci étant, on n'est pas, vous avez raison, à l'abri d'escalades incontrôlées, aussi bien sur la frontière nord avec le Liban, que, il faut rappeler, la Jordanie, qui est un royaume très fragile, dans lequel la majorité de la population est palestinienne, et où il y a une très très grande sensibilité à ce qui se passe, évidemment, en Cisjordanie. Donc tous ces facteurs peuvent être...
Côté Égypte.
Côté Égypte, il y a une, je dirais, une poussée... anti-israélienne extrêmement forte dans l'opinion, avec, il faut le dire, d'ailleurs, je crois que Paul-Marie de Lagos le souligne, avec des fois des articles d'un antisémitisme, délirant. Et le président Moubarak est pris entre deux feux, d'un côté son alliance avec les États-Unis, le fait qu'il a des relations diplomatiques avec Israël, même s'il n'a pas d'ambassadeur aujourd'hui, et de l'autre, la poussée de cette opinion. Et je veux dire, ça, c'est quelque chose de dangereux, compte tenu du fait que lui arrive en fin de mandat. Il faut bien aussi voir que dans le monde arabe, c'est de nouveaux dirigeants qui sont au pouvoir maintenant, en Jordanie, en Syrie, etc. Donc, des pouvoirs plus fragiles. On ne sait pas sur quoi ça peut, tout ça peut déboucher, mais ça peut aboutir à des choses catastrophiques qui devraient inquiéter en tous les cas, les Européens et les Américains. Je dirais que tout le monde a intérêt à une stabilité de la région, personne n'a intérêt à ce que ça déborde, et on peut être que surpris aujourd'hui par la paralysie de l'administration
silence
américaine et son
silence européen.
Oui, je dirais que l'Europe a moins de capacité d'agir, mais elle à la fois elle agit et à la fois elle dit bon que c'est aux États-Unis de faire l'essentiel, parce que c'est vrai que les États-Unis ont plus de moyens de pression sur Israël que l'Europe. Mais c'est vrai qu'il faut une coordination, je veux dire, il n'y a pas non plus de solution sans les États-Unis, il faut le dire, mais il faut une coordination des Russes, des Américains, des Européens pour imposer une solution. D'ailleurs, on peut se demander à un moment s'il ne faut pas mieux imposer une solution, c'est-à-dire de dire bon, il y a le droit international. Après tout, Taba a fixé les grandes lignes. Nous, communauté internationale, nous soutenons ces accords et nous imposons, et je crois qu'il y a les moyens, je dirais, à la fois économiques, politiques, pour les imposer, nous imposons ces accords.
C'est envisageable ou c'est une hypothèse utopique, ça?
Je crois que c'est une hypothèse aujourd'hui utopique, mais je dirais, si demain il y a une escalade, je dirais, ça pourrait devenir une hypothèse réaliste.
Assassini! Assassini!
Siamo tutti clandestini! Siamo tutti clandestini!
Pleure à mon amour.
Voilà, on continue avec l'équipe du Monde Diplomatique autour du numéro de ce mois de septembre. Et là, Assassini, vous avez reconnu les manifestations de gêne qui ont... démontrer beaucoup de choses, évidemment la vraie nature de ce sommet, la nature aussi du gouvernement italien, mais aussi autre chose, c'est une volonté très nette, très claire de se mêler de ce qui ne nous regarde pas alors que personne ne nous demande rien, c'est-à-dire des gens, des citoyens, à travers des ce qu'on appelle le mouvement social, des associations, des ONG ou des gens indépendants comme ça qui sont venus à Gênes pour montrer qu'ils croyaient en la politique, pas forcément celle qu'on nous oblige à faire, mais la politique en général, c'est-à-dire, faut-il le rappeler, cette capacité d'agir collectivement sur le cours des choses. Ils y croient, nous y croyons aussi. Voilà comment le Monde Diplomatique de ce mois de septembre en parle.
La, la, la.
On continue avec le Monde Diplomatique de ce mois de septembre. Alors là, je me tourne vers le président, c'est-à-dire Bernard Cassène. Alors de quoi on parle? On parle d'attaque, on parle de gêne et les suites de gêne.
Oui, nous avons longuement traité dans nos numéros récents de gêne, sous la signature de Suzanne Georges et de Ricardo Petrella. On voit bien que Gênes a constitué une bifurcation, comme Seattle. Et on voit aujourd'hui que la force du courant hostile à la mondialisation libérale pèse sur la décision politique de différents gouvernements. Par exemple, cette rencontre entre le chancelier Schröder, le Premier ministre et le président de la République française, où ils créent un groupe de travail commun pour réfléchir sur la mondialisation, n'était pas pensable il y a seulement quelques mois. C'est-à-dire la mondialisation s'est imposée dans le débat public, de manière accélérée maintenant. Et on voit que, par exemple, la présidence belge de l'Union européenne, qui va durer jusqu'à la fin de ce semestre, a inscrit une des mesures emblématiques de la lutte contre la mondialisation, la taxe Tobin, à son programme de travail. Et le 22 et le 23 septembre, se tiendra donc à Liège un conseil des ministres de l'économie et des finances où le sujet devait être débattu. Et la taxe Tobin, dont le monde diplomatique parle depuis très longtemps, est aujourd'hui un objet politique dur et incontournable. C'est sur cette mesure que se focalise...
Bernard Cassel, j'ai entendu dire que Tobin, finalement, Monsieur Tobin, qui existe, hein, il y a la taxe Tobin, mais ce monsieur existe, un économiste, un prix Nobel, etc., aurait dit, mais non, ma taxe n'est pas applicable.
Non,
lui-même, alors il est en train de vous couper.
Non, ce qu'a dit James Tobin, c'est que la taxe est toujours une mesure souhaitable. Il a d'ailleurs signé il y a quelques mois un appel des économistes pour la taxe Tobin. Donc la mesure, il y tient toujours. Ce qu'il dit, c'est qu'elle est politiquement inapplicable, en raison notamment du fait que les États-Unis sont farouchement hostiles. Mais il nous a rien appris. On sait ça depuis toujours, que les États-Unis, qui détiennent la minorité de blocage au sein du FMI, sont totalement hostiles à la taxe Tobin. Et l'action des mouvements hostiles à la mondialisation libérale, c'est justement de lever les blocages, et de commencer à d'abord les lever en Europe, et en particulier en France. Je pense que le problème de la taxe Tobin, ce n'est pas son manque de faisabilité technique, c'est l'absence de volonté politique. Et à cet égard, va être organisé à l'Assemblée nationale le 17 septembre, je pense que tous vos confrères vont être très intéressés par ça, à la salle Colbert à 15h, un grand débat sur la faisabilité de la taxe Tobin en Europe. Attaque dépêchera ses spécialistes devant les élus et devant la presse, et a demandé à Laurent Fabius de dépêcher les siens pour avoir un véritable débat contradictoire. Je pense que nous sommes nombreux à penser que la taxe Tobin est totalement faisable, et même de façon très simple. Tous les instruments existent, il suffit de le vouloir. Et donc ça c'est...
C'est-à-dire, attends, je suis un peu plus précis là sur la faisabilité.
Eh bien, toute transaction sur les marchés d'échange, puisque c'est le cas de la taxe Tobin, laisse une trace informatique dans les banques centrales. Toutes les banques centrales de tous les pays où se fait la spéculation sur les monnaies, mais pas que sur ça, ont connaissance de toutes les transactions. Je dirais qu'il suffirait d'un programme informatique adapté pour faire un prélèvement à la source. Donc, et beaucoup d'experts sont là pour le dire. Donc, il n'y a même pas de bureaucratie, il n'y a rien à, il faut le vouloir. Mais c'est là que ça coince.
L'application de la taxe Tobin, c'est le paradis pour les paradis fiscaux, parce qu'on va...
Effectivement, il peut y avoir un risque de délocalisation, non seulement vers des paradis fiscaux, mais vers les États-Unis. Mais la situation existe déjà. Il y a plein d'opérations qui se font à Londres ou à Francfort ou à Paris qui pourraient être délocalisées. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Les grands établissements financiers hésiteraient à délocaliser leurs opérations. Mais rien n'interdit aux États de couper les flux avec les paradis fiscaux. On a vu un retournement de la position américaine dans ce domaine. Les États-Unis qui, jusqu'à l'élection de Bush, était, disons, favorable à l'adoption de mesures qui étaient le plus souvent des rideaux de fumée, d'ailleurs, hein, parce que derrière, il ne se passait pas grand-chose. Maintenant, invoque la souveraineté de Vanuatu, des îles Caïmans et de quelques autres grandes puissances mondiales de ce genre pour refuser des mesures, des sanctions contre les paradis fiscaux. J'ai pas l'impression qu'ils ont les mêmes scrupules vis-à-vis de l'Irak, vis-à-vis de Cuba, vis-à-vis d'autres pays. Donc voilà, c'est le grand argument invoqué par Bush pour maintenant ne rien faire. Et il faut dire que les États-Unis ont intérêt à l'existence de paradis fiscaux pour leurs exportations. Ils ont d'ailleurs été condamnés par l'OMC à une amende de 4 milliards de dollars par an, mais sur plein de l'Union européenne. Mais on voit bien que l'Union européenne n'a pas du tout l'intention d'exiger que ces sanctions soient appliquées. Bref, la taxe Tobin permet de poser beaucoup de problèmes, sur la taxation de ce type de capital, de spéculation financière. Elle pose, comme vous le dites, la question des paradis fiscaux, mais à toutes ces questions, il y a des réponses. Il y a une seule chose qui fait défaut, c'est la volonté politique de les mettre en œuvre.
Il y a eu un sondage assez étonnant qui est sorti dans Le Monde au mois de juillet, qui faisait état de l'opinion À travers un sondage, avec toutes les réserves qu'on fait, qu'on doit faire un sondage par rapport à la mondialisation.
Oui, ce sondage est extrêmement intéressant. Il montrait que, quand on pose la question aux personnes interrogées, à qui profite la mondialisation? Réponse, 55% aux multinationales, 48% aux marchés financiers, 32% aux États-Unis. Et puis alors après, il y a un décrochage formidable, 11% à l'Europe et 1%, même pas 2, 1% à tout le monde.
Ah bon, quand même que le message est passé dans l'opinion.
Le message est passé dans l'opinion et j'irais, mais il est allé au-delà parce qu'il y a actuellement beaucoup de gens dans les milieux petits qui lisent les sondages. Et ce sondage-là ne leur a pas échappé. Je dirais que ce n'est peut-être pas totalement étranger à certains revirements de position, mais comme le disait le regretté président Edgar Faure, lorsqu'on l'accusait d'être une girouette, il disait que c'était pas la girouette qui tourne, c'est le vent qui tourne. Et le vent, semble-t-il, est en train de tourner de manière hostile au tenant de la mondialisation libérale.
Sur cette évolution de l'opinion, il y a évidemment le travail formidable accompli par le monde diplomatique depuis des années, mais il y a aussi quand même une opinion qui constate des résultats, qui constate des atteintes à l'environnement, qui constate les dégâts sociaux du néolibéralisme et de la mondialisation.
Oui, maintenant ce constat est assez unanimement partagé. Il faut vraiment chercher beaucoup pour trouver quelqu'un qui défendra la mondialisation.
Ah si, il y a notre ami Alain Minc.
Ah oui, c'est vrai, oui.
Il persiste et signe.
Oui, Alain Minc a persisté et signé, effectivement, dans sa thèse selon laquelle la mondialisation serait heureuse.
Il est un des seuls, hein. Alain Grèche.
Dans le numéro de septembre, on a un dossier sur les riches, qui s'intitule un peu ironiquement « La dernière classe sociale ». Et qui montre qu'il y a des gens qui profitent tout à fait. Je dis, il faut pas croire du tout que ça fait mal à tout le monde. Et je crois que c'est intéressant de relier ça à la situation sociale. C'est pas seulement une prise de position. Je dirais, des fois, on a l'impression qu'on est dans un débat purement idéologique. On est pour le libéralisme, contre le libéralisme. Bon, mais il y a aussi le problème des conséquences sociales. Je veux dire, Moulinex va sans doute annoncer aujourd'hui qu'il dépose son bilan, etc. Il y a des dizaines de milliers de gens qui restent sur le pavé au moment même où, je dirais, les riches profitent plus. Et je dirais, on publie en particulier un article de Piketty, qui aujourd'hui, dont on parle pas mal, qui montre que, en fait, il y a un risque de revenir aux inégalités du 19e siècle. Et qu'en fait, depuis la Première Guerre mondiale, il y a eu en France et en Europe un mouvement extraordinaire de réduction des inégalités, dû en particulier à la fiscalité. J'ai appris d'ailleurs avec étonnement qu'en 1920, le taux d'imposition pour les tranches supérieures était de 90%. Et aujourd'hui, on nous dit, ah, mais non, 35%, c'est déjà beaucoup trop, il faut réduire. Il y a des pays où ils créent un taux égal à 15%, etc. Je crois que cette question des inégalités sociales est importante parce que c'est comme ça que les gens la vivent. C'est pas que les gens ont été convaincus brusquement que les arguments anti-mondialisation étaient bons. Il y a un peu ça, mais il y a aussi l'expérience qu'ils font des inégalités. Pas seulement du fait que leur situation se dégrade, mais aussi du fait que les inégalités augmentent.
Qui avions les plus belles musiques. Je ne sais plus quel révolutionnaire espagnol avait dit ça lors de la défaite en 1939. C'est nous qui avons les plus belles musiques, ça c'est bien sûr. On continue avec l'équipe du Monde Diplomatique autour du numéro de ce mois de septembre. On a vu sur les côtes des Canaries et d'Andalousie récemment 800 immigrants
dans la seule semaine du 13 au 19 août qui ont été retrouvés. On s'inquiète toujours de ces migrations. On voit à Sangatte, dans le nord de la France, près de Calais, les migrations de ceux qui, tout simplement, espèrent une vie meilleure, le mirage d'une vie meilleure, le plus souvent. Et il y a dans le Monde diplomatique de ce mois-ci un reportage passionnant sur des migrants, des clandestins migrants, des Africains, qui viennent du cœur même de l'Afrique, du Niger, c'est-à-dire du la partie nord du Niger, c'est-à-dire du Sahel, et qui essayent de migrer comme ils peuvent vers l'Algérie et vers la Libye. Il y a aussi, il n'y a pas toujours que des migrations vers les pays riches, vers chez nous, mais il y a aussi des migrations comme ça, là en l'occurrence, inter-africaines. C'est Maurice Lemoine qui nous en parle. Alors on continue avec le monde diplomatique de ce mois de septembre, et c'est effectivement la suite, et c'est toujours lié à la mondialisation. Il y a un reportage, pour une fois, c'est pas un article d'universitaire, c'est un universitaire quand même, mais enfin qui est allé sur le terrain.
Hein? Il y a des universitaires qui savent écrire.
Oui, puis il y a des universitaires qui vont sur le terrain, qui prennent des Toyota avec des pauvres R qui partent du Niger, enfin des Africains de l'Afrique noire, et qui essayent de remonter vers l'Algérie, vers la Libye, pour trouver du boulot, tout simplement, vers une vie, mais pour une vie meilleure.
Et c'est particulièrement intéressant. Alors c'est vrai, vous avez raison de noter, Ben Saad a fait un magnifique boulot, c'est-à-dire qu'il est, parti avec des clandestins dans le Sahel. Il a vécu une expérience que eux vivent, je vais pas dire tous les jours, mais c'est-à-dire d'avoir traversé 700 km de désert, le Ténéré, avec deux points d'eau, juché sur un camion au-dessus de marchandises, donc une expérience humaine terrible. Et c'est intéressant de...
Ils sont 30-40 sur des Toyota, des pick-up.
Alors sur les camions, n'en parlons pas. Ça se passe pas toujours très bien, puisqu'on a trouvé en mai dernier 140 cadavres avec un camion. Et c'est intéressant d'aborder cet angle-là de l'immigration clandestine, parce que c'est de ça dont il s'agit. Parce qu'on a beaucoup parlé ici, chez nous, et on en parle beaucoup en Espagne. Vous savez qu'en août, en une seule semaine, on a vu arriver 800 immigrés clandestins qui ont été arrêtés. On voit arriver tous les jours sur les côtes des Canaries.
Gibraltar, entre la frontière entre le Maroc et l'Espagne.
On voit arriver tous les jours sur les côtes des Canaries, d'Andalousie, des cadavres, c'est-à-dire des gens qui meurent dans cette traversée de Gibraltar en particulier. Et là, on est allé en amont. C'est-à-dire qu'on est allé dans cet endroit, à Gadès, au Niger, où se rassemblent des Africains qui viennent de tout l'Ouest africain, qui viennent y compris du Niger, qui viennent du Ghana, de l'Afrique anglophone, et puis qui tentent la traversée infernale pour aller vers deux points, deux destinations précises. L'Algérie, d'où ils gagneront le Maroc, et d'où ensuite ils tenteront de gagner l'Europe à travers l'Espagne. Donc ça, c'est un phénomène qu'on connaît un petit peu mieux. Et puis la Libye. Cet article est très intéressant parce qu'il montre un petit peu aussi une face cachée, c'est-à-dire que ces phénomènes migratoires qu'on a beaucoup de mal à contrôler ne touchent pas que les pays du Nord, mais touchent aussi les pays du Sud. Et puis, la Libye, qu'on connaît très peu finalement, on se rend compte que les réactions sont parfois un petit peu les mêmes partout. C'est aussi intéressant dans la Libye, par exemple, dont le bouillant colonel Kadhafi, comme on dit habituellement, depuis le temps qu'il est bouillant, il n'a plus en pouvoir, le malheureux, veut être un des grands leaders de l'Afrique. On se rend compte que les pratiques en Libye sont quasiment aussi terribles, même sinon plus, que celles qui ont lieu chez nous, puisque vous avez le même phénomène, c'est-à-dire que lorsque la vague d'immigration arrange, et bien ma foi, on la laisse passer, on la laisse dans l'illégalité la plus totale, elle est destinée à faire reverdir le désert dans le sud de la Libye, et puis vous avez d'un seul coup une vague xénophobe qui arrive. Je crois que c'est en octobre 2000, on a eu un accès de xénophobie avec le massacre de 100 à 500 Africains. Donc, un phénomène qui est un phénomène global, qui est un phénomène fondamentalement de relations nord-sud, on est aussi dans la mondialisation. Hein. Je veux dire, on a à la fois un drame humain, c'est-à-dire celui de centaines de milliers d'Africains qui cherchent désespérément une voie de survie. On a un phénomène de société quand on aborde le problème côté européen, côté français, côté espagnol. Et je crois surtout qu'on a une grande réflexion à avoir. Pourquoi est-ce que je parle d'une grande réflexion? On a tous évidemment le réflexe, et il est humain, et il est normal, de se baser sur un slogan qui serait des papiers pour tous. En même temps, lorsque...
Objectif.
Non, c'est pas une vacherie, c'est une réflexion. Je dis qu'on a à réfléchir tous sur ce problème. J'ai vu récemment une déclaration de Boutros Ghali, qui annonce, alors je ne sais pas d'où viennent les chiffres, mais là, ce serait intéressant d'enquêter, que l'Europe doit s'attendre à une migration de 20 millions d'Africains du Nord et d'Africains. Bon, je veux dire, on peut pas se contenter de dire on est humain, on accueille tout le monde. Il y a une vraie réflexion à avoir, c'est-à-dire développement du Sud, conditions d'accueil chez nous, dignité de ces gens qui viennent, parce qu'on voit aussi développer des phénomènes extrêmement inquiétants. Je veux dire, quand on voit des grands pays comme l'Allemagne dire qu'on va accueillir les ingénieurs, les médecins, je veux dire, c'est aussi une fuite des cerveaux, c'est aussi un appauvrissement des pays du Sud. Donc moi, je sens plus ce papier à la fois comme un témoignage sur le drame humain que vivent les gens d'immigration, mais aussi une incitation pour nous à réfléchir sur comment allons-nous gérer ces problèmes.
C'est pas le tournant, c'est pas le fauché, le spéculateur, c'est pas le furet, c'est pas le furet, c'est pas le fauché, le spéculateur.
Refusant de se dire ce qu'elle est et ce qu'elle veut être, elle perd chaque jour de son évidence et de son poids. Elle n'est pas encore une personne, elle est déjà un machin. Ainsi, Edgar Pisani, vous vous souvenez d'Edgar Pisani dans un livre qui sort ces temps-ci au Seuil, qui s'intitule « Une certaine idée du monde, l'utopie comme méthode ». Voilà comment il considère l'Europe. Il en est question dans le monde diplomatique de ce mois-ci. Et voilà comment Anne-Cécile Robert, collaboratrice du monde diplomatique, voit cette crise, car il y en a une, de l'Europe.
L'Europe traverse une crise depuis environ une dizaine d'années, depuis la signature du traité de Maastricht. Et la crise se confirme, et le sommet de Nice de décembre 2000, qui est un échec reconnu par tout le monde, c'est-à-dire d'un bout à l'autre de l'Europe et de l'échiquier politique, on reconnaît que ce traité est un échec. Et l'Europe est en crise parce que elle a été conçue il y a une cinquantaine d'années pour 6 pays, qu'aujourd'hui on est 15 et qu'on envisage d'accueillir 13 nouveaux pays sans avoir réformé les institutions pour qu'elles soient capables d'accueillir tous ces pays et de fonctionner avec autant de pays, sans avoir réformé les fonctionnements, les procédures, les budgets, les politiques. Et puis surtout derrière tout ça, l'Europe est en panne parce que le projet européen lui-même est en panne. On a fait l'euro, ça nous a servi de projet, mais c'est simplement un instrument, mais quelle Europe on veut faire, quel type de projet humain on veut faire porter par l'Europe, quel projet de civilisation, quel projet politique, c'est cette question-là qui est en suspens et qui n'est jamais traitée.
Quelle est cette Europe ? Est-ce que c'est vraiment uniquement une Europe des marchés, une Europe du fric, une Europe libérale, au détriment d'une Europe, disons, politique, c'est ça qui est...
On a construit une mécanique juridique, technique, politique qui s'est mise au service d'une construction économique qui était inscrite dans les traités fondateurs, les traités de Rome dans les années 57-58 avaient pour objectif la mise en place d'un grand marché avec une libre concurrence entre les entreprises, avec des frontières ouvertes. Ça s'expliquait à l'époque par l'idée que il fallait développer l'économie, et on craignait pas trop peut-être à l'époque la régression sociale parce que les États étaient encore des États-providence. Donc on n'avait pas encore cette peur-là. Mais avec la crise des années 70, avec le virage idéologique des années 80, l'ultralibéralisme, toute la machine s'est mise au service d'une libéralisation débridée qui s'inscrit dans le projet de la mondialisation actuelle et qui en est le relais au lieu d'en être ce qu'elle pourrait très bien être, un enclos, un îlot, où on se protégerait des dégâts sociaux de la mondialisation. Et aujourd'hui, le système est complètement déséquilibré. On a une sorte de fédéralisme technico-économique, avec au sommet la Banque centrale, l'euro, et on n'a aucun contrepoids politique, ni démocratique, ni social à cette formidable machine.
Oui, mais on nous dit que les États ne peuvent plus rien. Les gouvernements disent ben c'est Bruxelles qui décide.
Les États.
Est-ce que c'est vrai qu'ils n'ont plus de pouvoir ? Est-ce que c'est vrai que le pouvoir n'a plus de pouvoir ?
C'est vrai et c'est faux. C'est vrai dans la mesure où il y a un certain nombre de décisions qui ont été transférées à l'échelon européen. Donc effectivement, ce sont des instances internationales qui prennent les décisions. Mais c'est faux dans la mesure où les États sont représentés dans ces institutions et que dans une large mesure, ce sont eux qui prennent les décisions de fond, qui déterminent les grandes orientations politiques.
Bernard Cassen, on dit « haro sur l'OMC, abat le FMI ou abat la Commission européenne ». Mais on se moque du monde, parce que dans toutes ces instances, ce sont les États qui décident. Évidemment, il y a des bureaucraties avec leur rigidité et leur propension, mais il suffirait que, au niveau européen, c'est le Conseil des ministres qui décide de quasiment tout, sauf les compétences qu'il a lui-même, directement ou indirectement par les traités, transférées à la Commission, à la Cour de justice ou à la Banque centrale. C'est le politique qui a créé cela, c'est pas tombé du ciel. Et ce que le politique a fait, il peut le refaire ou le défaire. C'est pourquoi les États... Et donc, dans chacun des États, les opinions publiques, les citoyens, ont un énorme pouvoir.
Mais je voudrais souligner la perversité du système qui consiste, à chaque fois qu'on nous présente un nouveau traité européen, à nous le vendre, à nous le faire adopter au nom de ce qu'il pourrait être. On nous a dit, l'acte unique européen, bon, c'est que du libéralisme, mais ne vous inquiétez pas, ça va servir à faire l'Europe sociale. On n'a jamais rien vu. On nous a vendu Maastricht en disant, bon, il n'y a que l'euro, il n'y a que de la monnaie, mais vous inquiétez pas, avec l'euro, on va faire une Europe forte qui va s'opposer aux États-Unis. Et à chaque fois, on nous fait avaler un traité au nom de ce qu'il pourrait être, ce qui est complètement pervers. Et évidemment, on voit jamais la politique qu'on souhaite, ni la politique sociale, ni l'Europe puissante qui pourrait s'opposer aux États-Unis. Et on la voit pas parce que on ne construit pas les rapports de force pour l'imposer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui les mouvements civiques, associatifs, les débats sont extrêmement importants parce que depuis des années, le débat est complètement plombé. Si on critique l'Europe qui se fait aujourd'hui, on nous dit qu'on est anti-européen. Alors qu'il y a plusieurs façons de faire l'Europe. Il y en a forcément plusieurs façons. C'est-à-dire, à la limite, les gens, à chaque fois qu'on leur dit qu'il n'y a qu'une seule politique possible, il n'y a qu'une seule Europe possible, ils devraient avoir des warnings.
Une autre Europe est possible.
Forcément, il n'y a jamais qu'une seule façon de faire les choses. Donc aujourd'hui, quand on critique l'Europe, on ne fait simplement que rétablir un principe de liberté. Et que c'est la liberté de l'esprit critique, et c'est la liberté du citoyen de choisir le monde dans lequel il vit. Et aujourd'hui, on a la chance, avec le cadre européen, justement, de disposer d'un lieu où on peut s'exprimer, influencer les choses, ce qui n'est pas forcément le cas dans le reste de la planète.
Merci à tous, merci Anne-Cécile Robert, Maurice Lemoine, Dominique Vidal, Alain Grech, Bernard Cassen de l'équipe du Monde Diplomatique. Apparaître dans les jours prochains un livre d'Alain Grech, Israël, la Palestine et nous chez Fayard. Montage Guy Vanctil, technique aujourd'hui Sandrine Laurent et Christophe Goudin, assistant Joël Levert, Antoine Dabrowski et Christophe Imbert, réalisation Antoine Chao, assisté de Bruno Carpentier. Le répondeur de là-bas, si j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37, et l'email, parce qu'on a ça aussi, on a un email, daniel.mermet@radiofrance.com. Réclame.